Je vais encore vous parler sur la prière. Ça fait déjà quelques fois que j'ai pris ce thème. Je crois que c'est un thème important. Mais, comme vous voyez aujourd'hui, il y a un mot en plus, veiller et prier. C'est vrai que je vous ai parlé sur la prière et je crois que c'est très important en tant que chrétien de pouvoir prier. Mais il est aussi important de veiller et prier. Et dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On nous parle, c'est vrai, depuis de nombreuses années des temps difficiles que nous traversons. De guerre, de bruit de guerre, de famine, de catastrophes de tout genre. Famine, tremblement de terre, tsunami, etc. Nous avons vécu et nous vivons encore ces choses pour l'instant. Nous avons quelque part toujours vécu cela. On nous parle depuis tant d'années de veiller, de prier, parce que les temps sont mauvais. Et malheureusement, finalement, le chrétien s'habitue à cette situation. Et je crois qu'il finit par ne plus prendre garde vraiment à cela. Et l'on se dit, depuis que le monde est monde, il y a des guerres. Et il est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui, ni dans le XXe siècle, ni au moins dans le XXIe siècle, que l'on parle de guerre. L'humanité a toujours été traversée par des guerres de toutes sortes, par des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, il y en a eu, nous pensons à Pompéi, il y a presque 2000 ans, donc il y a eu d'autres catastrophes. Pourquoi s'inquiéter ? Pourquoi s'inquiéter puisque ça a toujours existé? Et malheureusement, nous finissons par nous habituer à ce genre d'avertissement que cela peut nous faire oublier dans quel temps nous vivons. Et que cet avertissement nous passe parfois par-dessus la tête. Il y a près de 2000 ans, Paul écrivait ce que je viens de lire et il disait déjà « dans les derniers temps, etc., etc. » Et Paul n'est plus là depuis quelques 2000 ans. S'est-il trompé, quelque part? Pensait-il vivre déjà dans les derniers temps où tout cela sert tout simplement à faire peur aux gens, faire peur aux chrétiens? Je pense que ce n'est pas cela. À nous de nous maintenir en éveil, en veillant et en priant. Afin de ne pas nous endormir, afin de ne pas chuter. Et perdant de vue quelque part le retour du Seigneur, car il reviendra. Nous ne savons pas quand, mais il reviendra. Prenons l'évangile de Luc, au chapitre 21. À partir du verset 29, nous allons lire quelques versets que nous connaissons fort bien. Puis il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde pas sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. J'ai lu dans la version Second 21. Jésus, en fait, nous connaît mieux que personne. Il sait que nous pouvons discerner le temps, c'est-à-dire la météo, les saisons, le printemps, l'été. Nous avons pour l'instant toutes les prévisions météorologiques en temps réel. Si vous avez votre GSM, vous avez peut-être une application avec la météo, vous savez voir tout de suite le temps qu'il fait ici, ou si vous partez en vacances, si vous voulez savoir le temps qu'il fait à Marseille, vous regardez, vous savez dire le temps qu'il fait. Nous pouvons vraiment prendre vraiment cette météo en temps réel. Et Jésus donne l'exemple de la floraison et de l'éveil de la nature au printemps. Et malheureusement, si nous savons discerner la météo ou discerner les saisons, malheureusement, nous ne savons pas discerner les temps actuels qui sont mauvais, les temps que nous vivons. Et Jésus le savait. Nous nous endormons, nous nous disons, tous les signes bibliques ne sont pas encore accomplis, nous avons bien le temps avant que le Seigneur ne revienne. À quoi bon se tracasser ? Bien sûr, les non-chrétiens ne font pas toujours attention aux signes du retour de Jésus, quoique, combien de fois nous nous entendons dire des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, et qui nous disent, mais c'est quand même une drôle d'époque que nous vivons. Et les gens s'interrogent sur l'état de ce monde qui ne tourne pas rond. Et ils nous posent parfois des questions qui sont parfois judicieuses. À nous les chrétiens, nous entendons malgré tout beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes parmi nous, parmi nos contemporains, au sujet des événements que nous vivons. Mais ici, Jésus s'adresse spécialement à son Église, à ses enfants que nous sommes. Soyons réalistes, frères et sœurs, depuis quelques années, nous voyons des événements de plus en plus inquiétants se produire autour de nous. Des conflits armés, des bouleversements climatiques, des catastrophes naturelles, et j'en passe, sans parler de la violence, de l'insécurité dans nos villes. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans le Pas-de-Calais, deux adolescents ont battu à mort un jeune homme de 22 ans, lui ayant donné un rendez-vous pour une rencontre, et l'ont battu à mort. Combien de cas similaires nous avons dans notre monde, dans nos villes? Et tout cela devrait nous interpeller et ne pas nous laisser indifférents. Nous avons vu pas plus tard que ces derniers temps une escalade dans plusieurs conflits internationaux. Ça nous fait peur parce que ces pays-là ont l'arme atomique et puis on ne sait pas trop bien ce qui peut se passer dans la tête de certains dirigeants fous, disons, n'est-ce pas? Comme j'ai toujours dit, si ces gens-là veulent se battre, ben qu'ils se mettent tous ensemble dans un champ de bataille et qu'ils se battent entre eux. Mais ça, ils ne le feront jamais. Ils sont toujours bien planqués dans leur bunker. Et ce sont les pauvres gens qui, malheureusement, meurent. Beaucoup nous disent aussi, nous vivons dans un monde de fous. Et c'est vrai. Et ils ont raison. Oui, le monde va mal. Et comment nous, en tant que chrétiens, vivons-nous ces événements? Bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions pas être dans la crainte, car nous savons, comme la parole de Dieu nous dit, que notre délivrance est proche. Nous devrions plutôt être dans la crainte pour nos familles, nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, afin qu'ils puissent accepter aussi ce message de délivrance, afin qu'eux aussi puissent aller à la rencontre du Seigneur quand il reviendra. Ce devrait être notre fardeau à nous chrétiens de prier pour tous nos bien-aimés, pour ce monde qui se perd, afin qu'il y ait un maximum qui puisse rencontrer le Seigneur. Voilà encore une raison, frères et sœurs, de réaliser combien la prière est très importante. Ce devrait être notre prière de chaque jour, de prier pour nos proches, pour nos amis, pour le monde, car la prière, quelque part, c'est l'essence même de notre foi en tant que chrétien. Réalisons l'importance de ce que Jésus déclare. Ces paroles ne disparaîtront pas, frères et sœurs, même si elles tardent à se réaliser dans le temps. C'est ce qui pousse parfois, et souvent même, les chrétiens à s'endormir, à ne pas veiller, à ne pas prendre garde aux événements actuel. Disons, la guerre et les catastrophes naturelles ont toujours existé. Ils pensent que nous avons le temps. que nous avons le temps. Non, Jésus plutôt nous pousse à la prière et à demeurer sur le qui-vive, frères et sœurs. Ne pas prendre ces choses-là comme habituelles, mais à nous poser la question, Seigneur, quand vas-tu revenir ? Je dois absolument continuer à intercéder et à prier. Je suis souvent émerveilleux de la foi et de la ferveur de nos frères et sœurs persécutés. Je suis émerveillé de voir comment ces gens-là, vivant dans des conditions difficiles, ont la force, le courage de prier. La force qu'ils puisent dans la prière, la force qu'ils puisent dans la lecture de la parole de Dieu quand ils ont la Bible. Certains n'ont que quelques pages, certains ont mémorisé des versets bibliques afin que quand ils sont en prison, ils peuvent continuer à répéter les promesses de Dieu. Ils sont constamment sur le qui-vive. Ils sont en éveil permanent car ils ne savent pas comment va se terminer leur journée. Frères et sœurs, ce sont des exemples pour nous qui vivons dans un pays tolérant, dans un pays de liberté. Et en plus, ces chrétiens, ils prient pour nous. Nous, on prie pour eux, mais eux, ils prient pour nous, parce qu'ils savent très bien, ils connaissent bien notre situation. C'est un comble, c'est vrai qu'ils prient pour nous, mais ils se doutent que nous, nous sommes peut-être plus en danger qu'eux. Peut-être pas au niveau de nos libertés, quoique ça peut arriver, mais ils savent très bien que nous sommes en danger spirituel. Parce que nous ne veillons pas assez, frères et sœurs, nous ne prions pas assez, nous sommes pris par toutes sortes de préoccupations qui nous éloignent de l'essentiel. C'est vrai que nous devons, pour ceux qui travaillent, doivent aller travailler, pour ceux qui ont leur ménage à faire leur ménage, faire des choses naturelles. Mais combien nous passons à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, frères et sœurs, c'est que Jésus revient. Préparons-nous pour son retour. Préparons-nous comme s'il devait revenir demain. Nos frères et sœurs persécutés le savent et ils le comprennent. C'est pour cela qu'ils veillent. Et quel avertissement Jésus nous donne ? Au verset 34, il nous est dit « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Jésus nous prévient. Jésus nous prévient parce qu'il connaît nos cœurs, nos penchants, nos travers. Attention, si vous ne veillez pas, vos cœurs vont devenir insensibles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Insensible à la voix de Dieu, insensible aux avertissements de Dieu. Parce que nous limitons notre temps dans la méditation, nous limitons notre temps dans la prière. Nous ne mettons plus Dieu en premier dans nos vies. Jésus savait mieux que personne comment notre société allait évoluer et quelles seraient les priorités dans notre monde actuel. La bonne bouffe. Ah, ça c'est quelque chose d'important. Se faire un bon resto. Ah, on se dit souvent, on se téléphone, on se fait un resto ensemble. Vous avez sûrement déjà entendu dire ça, vous l'avez sûrement dit aussi, on se fait un resto quand on se voit, on va s'inviter, on va bien manger, boire un bon coup. Voilà ce qui motive un peu notre époque. Quand il n'y a rien de mal à bien manger. J'aime bien manger, j'aime bien boire un bon vin. Voilà. Avec modération, comme la publicité le dit, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas cela qui va apaiser nos craintes du retour de Christ. Après une bonne cuite, on a la gueule de bois et les problèmes sont toujours là, hein, vous le savez bien. Il n'y a rien de mal à manger et boire, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Même Jésus aimait bien manger et boire un bon verre de vin. Et on l'a même traité de mangeur et de buveur et d'amis, des amis des publicains, parce que Jésus, il aimait bien un bon resto. Mais ça, ce n'était pas sa priorité, même s'il aimait bien la bonne table. n'est pas ça notre priorité. On est pris par l'appât du gain. On est pris par le travail, l'amusement, les loisirs. La crainte de Jésus pour nous, frères et sœurs, est que nous rations son retour par toutes sortes de ces préoccupations terre à terre qui nous éloignent de l'essentiel. Tout cela, ce que je vous ai cité, devrait être des préoccupations secondaires. Pour nous, Jésus revient, sommes-nous conscients de cette évidence? Nous préparons-nous dans la prière pour nous-mêmes et pour nos proches qui ont besoin de rencontrer le Christ? Nous sanctifions-nous afin d'être purs pour son retour? Que ce jour, chers amis, ne fonde pas à l'improviste sur les enfants de Dieu. Quel drame ce serait pour nous chrétiens de nous retrouver comme dans la parabole des vierges folles, la porte du royaume des cieux nous serait fermée à cause de notre négligence. Avoir lutté en vain, car ratant l'essentiel, c'est-à-dire le retour de celui qui est l'objet de notre salut et de notre foi. Jésus disait, en effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ce jour du retour du Seigneur, retour que nous rappelle régulièrement depuis plus de 2000 ans, ce jour viendra à l'improviste. Jésus nous a avertis. Il ne nous a pas donné une date. Certaines religions nous ont donné des dates et ils sont plantés. Et puis ils ont remis de nouvelles dates et ils sont encore plantés. Ce jour viendra sans crier gare, frères et sœurs. Nous surprendra. À nous d'être vigilants. Jésus nous demande de rester en éveil et de prier, de ne pas nous assoupir. Car c'est vrai, il y a tant d'années qu'on parle du retour du Seigneur. Et l'on s'habitue à ce langage. Rassurez-vous, il reviendra. Quand? Je ne sais pas. Même lui, Jésus dit, je ne sais pas. Seul le Père sait quand viendra son retour. C'est quoi rester éveillé? J'ai trouvé une définition. Rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Ça, c'est la définition de l'éveil. Rester volontairement éveillé. Et ici, je parle au niveau spirituel. Je ne veux pas dire que vous ne devez plus dormir. Hein. Je crois qu'on serait dans un état ce matin. Si ceux qui ne savent pas bien dormir sont souvent très éprouvés. Mais non, c'est rester éveillé spirituellement que le Seigneur nous demande. De ne pas se laisser endormir par quoi que ce soit qui pourrait remplacer notre relation avec le Christ. J'ai souvent entendu les chrétiens prier, et ça depuis ma tendre enfance, « Seigneur, envoie le réveil ». Combien de fois on prie pas « Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil ». Mais c'est pas comme ça qu'il faut prier. Le Seigneur nous dit « Toi, mon enfant, tiens-toi éveillé ». Eh oui, et là, spirituellement, tu seras en forme. Je pense qu'on s'endort trop facilement. Beaucoup coupent la sonnerie quand le réveil sonne. J'ai remarqué ça. On met le réveil et puis le réveil sonne et plouch, on coupe la sonnerie. J'en connais beaucoup hein, qui avaient des pannes d'oreiller pour venir travailler. Et ensuite, oui, ils arrivent en retard au travail. On coupe la sonnerie, puis on se retourne de l'autre côté du lit, on se rendort. Et c'est un peu ça que nous faisons en tant que chrétiens. Il y a des signaux d'alarme, il y a des alertes qui se font, comme une sonnerie de réveil, mais on la coupe, on n'y prête pas attention, et on s'endort, on se retourne de l'autre côté du lit. Et c'est vrai que nous agissons ainsi dans notre vie chrétienne. Et le Seigneur nous encourage ce matin à demeurer éveillés, à ne pas nous assoupir. Il veut nous avertir, nous parler. Malheureusement, nous coupons la sonnerie. Et on se retourne de l'autre côté du lit spirituel, Nous sommes insouciants, nous nous endormons de plus belle. Et Jésus nous dit, reste éveillé, continue à prier. Oui, mais prier pour quoi? Prier pour qui? Déjà pour nous-mêmes, hein, prions, afin que le Seigneur nous garde. Afin que le Seigneur nous garde de tomber dans la tentation. Jésus donnait ce conseil-là, justement, à ses disciples, quand il était dans le jardin de Gethsémané, et qu'il était là pour prier. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Voilà pourquoi déjà il faut prier. La tentation sera toujours là. La tentation, les tentations sont toujours à notre portée et elles sont nombreuses actuellement. Nous avons tant de choses qui nous feraient tomber dans la tentation. Nous avons tellement de moyens techniques, d'amusements, de toutes sortes. Et notre ennemi, le diable, ne se gêne pas de nous les présenter de plus belle, surtout quand on a pris de bonnes résolutions de vouloir prier, de vouloir méditer. Beaucoup de choses nous viennent en esprit. Seule la prière, chers amis, nous permet de rester vigilants et éveillés. Jésus nous avertit, le sommeil nous guette. Remettons-nous en question, quelle est notre vie de prière? Prenons-nous le temps de prier, afin de ne pas tomber dans les pièges de notre ennemi. Il est temps de revoir notre manière de prier, chers amis. Et je ne pense pas que c'est le fait du hasard que j'ai été poussé ces temps-ci à vous parler de la prière. C'est peut-être la dernière méditation sur la prière, quoique, je ne sais pas, parce que j'ai une petite idée là, mais enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas encore médité assez. Mais voilà, je ne pense pas que c'est du hasard qu'on a parlé de prière ici, parce que c'est quelque chose que nous avons besoin pour notre vie de tous les jours, pour être fort. Marc, chapitre 13, nous dit, au verset 32, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Jésus nous aime, frères et sœurs, et il prend soin de nous. C'est pourquoi il insiste dans ses enseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement longtemps que l'on nous parle du retour de Jésus. Nous pensons presque qu'il ne reviendra plus, tellement on nous en a parlé. C'est pour cela que Jésus insiste en disant que personne ne connaît le moment. C'est pour ça qu'il nous avertit. Ça nous surprendra, même peut-être les chrétiens, sûrement même. Mais il reviendra. Il demande donc d'être prêt et d'être très attentif à notre comportement, à notre façon d'agir, à notre façon de parler, à notre façon de nous comporter, à notre façon de vivre notre vie chrétienne. L'apôtre Pierre disait au chapitre 4 de la première épître, « La fin de toutes choses est proche. » Il y a 2000 ans qu'il disait ça. « Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Ne pas se laisser distraire. Et bien souvent, quand on prie, c'est à ce moment-là que plein de choses nous passent par la tête. Zut, j'ai oublié de payer la dernière tranche des impôts. Ah, zut, j'ai oublié d'acheter ceci. Ça vous est jamais arrivé, ça aussi? Et c'est toujours à ce moment-là qu'il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Donc, le Seigneur nous demande de veiller et de prier, de ne pas nous laisser distraire, afin que notre prière puisse atteindre les cieux. Et Pierre a retenu la triste leçon du jardin des Oliviers, car il était présent avec Jésus. Mais il s'est endormi. Il n'a pas pu résister au sommeil. Et nous voyons ce triste événement qu'il a vécu en reniant son maître, parce qu'il n'a pas pu veiller. Et il nous dit que la fin est proche. Comme je l'ai dit, il y a 2000 ans qu'il nous disait cela. La version du semeur a traduit « avoir une vie équilibrée ». Avoir une vie équilibrée. Ça, c'est important. Est-ce qu'on remarque, est-ce que le monde remarque que nous sommes chrétiens? Avons-nous cette vie équilibrée qui, rien qu'à notre présence, rien qu'à notre façon de vivre, on remarquera que nous sommes chrétiens. ne pas être distrait. Distrait par tout ce que la vie nous propose comme distraction. Pierre nous invite à être disponible pour la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » C'est dans la version du Semeur. L'apôtre Paul nous encourage à prier. « Veillez, nous dit-il, avec persévérance. » Mais il nous encourage à prier pour tous les saints, pas les saints du calendrier. Non, ils sont dans la gloire, ils sont dans la paix. Prions pour chacun de nous, car nous sommes appelés à être, on ne nous est pas prononcé, à être saints. Sommes-nous vraiment saints? C'est la question, mais nous sommes appelés à être saints. Et nous devons prier les uns pour les autres. Et l'apôtre nous encourage à prier vraiment pour les uns pour les autres. Ainsi, la prière nous permettra d'obtenir des victoires, surtout en ces temps troublés. J'avance, je vais bientôt terminer, rassurez-vous. Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. Nous sommes des enfants de lumière. Si nous l'oublions, ben, je vous le répète, nous sommes des enfants de lumière. Et l'apôtre Paul le répète, le fait, le souligne. Si nous sommes enfants de lumière, nous sommes éclairés par la parole qui est la véritable lumière. Et à la lumière de sa parole, nous sommes éclairés afin de discerner dans quel temps nous vivons. Ça, c'est important, que nous réalisions dans quel temps nous vivons. Et bien sûr, nous n'appartenons plus aux ténèbres. Donc veillons, et ainsi nous marcherons toujours dans la lumière. En revêtant les vêtements adéquats et disposant des armes que Dieu nous donne, nous pouvons faire face à l'ennemi et nous préparer pour ces temps difficiles en attendant le retour du Seigneur. Et vous connaissez tous ce verset qui se trouve dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole ». Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, la parole de Dieu est une lampe nous éclairant. Nous citons régulièrement ce texte. Mais arrêtons-nous quelques secondes afin de l'analyser. Nous avons besoin de cette lampe à nos pieds afin de voir où nous mettons vraiment nos pieds. Il y a tant de doctrines, frères et sœurs, qui circulent et se contredisent, semant le trouble parmi les chrétiens, spécialement sur le retour du Seigneur. Que d'études, que de vidéos nous propose-t-on pas sur le retour du Seigneur et les gens sont parfois troublés parce que un dit une chose, l'autre dit autre chose et nous sommes perturbés. Frères et sœurs, ne regardez pas spécialement les vidéos, regardez la parole de Dieu, vivant des temps difficiles. Mais le Seigneur reviendra quand on ne le sait pas. Donc préparons-nous, préparons-nous. Notre chemin n'est pas facile, frères et sœurs. Il est bordé d'épines, de ronces, de difficultés, de tout ordre. Et ça, nous le savons bien. Nous avons donc besoin de la lumière de l'Esprit Saint afin de nous éclairer, afin de marcher dans la bonne direction. Et la bonne direction est la vie éternelle avec le Seigneur qui reviendra chercher son Église. Et cela, nous le comprenons vraiment si nous nous laissons éclairer par sa parole. Pour bien la comprendre, il nous est dit « veillez et priez » afin de recevoir l'éclairage nécessaire, afin de demeurer ferme dans la foi. Et là, je termine. Apocalypse chapitre 16, verset 15, nous dit « voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. » Afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Ne soyons pas surpris, c'est écrit et répété à plusieurs reprises dans la parole. Nul ne sait quand il reviendra. Mais il reviendra comme un voleur. Et l'image est forte. La Bible nous avertit qu'il reviendra comme un voleur. Et si comme moi, vous avez déjà été cambriolé chez vous, je n'ai été cambriolé que 4 fois depuis qu'on est marié, donc on a pris l'habitude. Mais vous comprendez ce que ce mot veut dire. Hein? Parce que vous êtes au travail et puis vous vous rendez compte que votre maison a été cambriolée et qu'on a retourné tout. C'est comme cela que le Seigneur reviendra. Le voleur ne m'a pas envoyé un SMS. Je vais venir chez toi. Hein? Non. Et en plus, c'est chaque fois mon épouse qui tombe sur la maison cambriolée, voyez-vous, et c'est toujours un choc de se rendre compte qu'on a été cambriolé. Mais ça vous fait peut-être sourire, bon non, on en rit, mais à ce moment-là, on ne riait pas. Mais c'est comme ça que le Seigneur reviendra. Il agira comme un voleur. Soyons donc vigilants et gardons notre vêtement sur nous. Ne soyons pas en robe de chambre, soyons habillés avec nos vêtements spirituels, afin d'être prêts à son retour. Ne nous déshabillons pas, ne soyons pas nus, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais soyons prêts pour son retour. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être vigilants, car les jours sont mauvais. Il nous demande de garder la foi, en veillant et en priant. Que vraiment ce soit notre désir à chacun d'entre nous de conserver cette foi, de conserver cette espérance jusqu'à la fin, afin de ne pas se retrouver surpris, ni comme ces vierges folles qui ont eu la porte fermée. Donc, frères et sœurs, c'est un ordre. Ce n'est pas moi qui vous le donne, c'est la parole de Dieu qui nous donne cet ordre-là. Veillons et prions, afin de n'être pas surpris. Amen. Seigneur notre Dieu, tiens-nous vigilants, merci pour ta parole, qui est vraiment cette lumière nécessaire pour notre foi, nécessaire pour nous éclairer afin de ne pas perdre de vue cette espérance qui est devant nous. Seigneur, pardonne-nous nos négligences, nos manquements. Seigneur, aide-nous à comprendre que nous devons méditer ta parole, que nous devons prier, nous devons veiller, être attentifs. Seigneur, bénis ton Église. Prépare-nous vraiment pour ton retour afin que nous soyons prêts à vivre avec toi pour l'éternité. Amen.